Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 19h. Le journal est signé Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Emmanuel Macron va lancer une nouvelle convention citoyenne à partir du mois de juin sur le thème de l'éducation. Cette convention citoyenne durera au moins jusqu'à l'automne, fait savoir l'Élysée ce soir. Après la convention citoyenne sur le climat, puis celle sur la fin de vie, le chef de l'État souhaite que des citoyens soient à nouveau tirés au sort pour se pencher sur la question des rythmes scolaires, de la durée des journées à l'école, de l'heure d'entrée en cours ou encore sur la question de la durée des vacances pour les écoliers. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté cet après-midi en commission la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir sous strictes conditions. Le texte permettrait aux malades souffrant d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale et ne supportant plus leur souffrance de recevoir ou de s'administrer une substance létale. Les autorités syriennes dénoncent ce soir une dangereuse escalade causée par la frappe israélienne près du palais présidentiel à Damas, frappe en guise d'avertissement contre toute atteinte à la minorité druze après plusieurs jours de violences meurtrières menées par des groupes armés proches du pouvoir. Le pape François a inhumé le week-end dernier la grande machine du conclave qui doit élire le nouveau pape à partir du 7 mai. C'est mise en marche, l'organisation pratique avance, mais surtout les grandes manœuvres pour influencer le conclave ont commencé. Premier visé, le cardinal Parolin, explication de Bruno Duvic.
C'est l'un des cardinaux, à ce stade, les mieux placés pour succéder à François, dont il était le numéro 2, le secrétaire d'État. Les conservateurs reprochent à Pietro Parolin l'accord avec la Chine pour la nomination en commun d'évêques entre Pékin et le Vatican, accord signé en 2018. Et un site conservateur américain affirmait hier que le cardinal avait fait un malaise le 30 avril lors de la Congrégation Générale, ces réunions d'hommes en rouge avant le conclave. Mettre en doute la santé d'un papa bilé, c'est un classique. La salle de presse du Vatican a démenti ce matin. Autre tir, une ONG américaine à nouveau, connue pour documenter les cas d'abus sexuels au sein de l'Église, a organisé ce matin une conférence de presse pour accuser le même Pietro Parolin. Il n'aurait pas répondu aux demandes d'informations de commissions officielles sur les cas de dizaines de prêtres et religieux en Australie, au Chili, en Pologne, au Royaume-Uni. Anne Barrett Doyle, la co-directrice de cette ONG, Bishop Accountability, assume cette action de lobbying.
Le cardinal Parolin, comme secrétaire d'État, a dissimulé des documents officiels venus de plusieurs pays dans le monde. Il a fait disparaître des informations à propos de crimes sexuels commis sur des enfants par des membres du clergé. C'est sans doute le plus grand détenteur de secrets dans tout le Vatican. Ce serait un mauvais jour pour les enfants s'il était élu pape.
Pas de réponse à ce stade du cardinal ou de son entourage à ces graves accusations. L'ONG promet d'égrener d'autres noms dans les jours à venir.
Bruno Duvic à Rome pour France Culture. 19h03, toujours sur France Culture. La suite de questions du soir avec vous, Quentin Lafay.
Merci beaucoup Nicolas Ballu et tout de suite une plongée dans la pensée de Monique Wittig.
France Culture, questions du soir, Quentin Lafay.
La semaine dernière, une place Monique Wittig a été inaugurée à Strasbourg dans le quartier de Nordhof, région où elle est née en 1935, à l'occasion de la journée internationale de la visibilité lesbienne. C'était samedi dernier. Dans le même temps, ou même un peu avant, l'année 2023, vingtenaire de sa mort, a été l'année Wittig, avec un grand nombre de mises en scène de ses textes ou encore plusieurs colloques organisés. Exilée aux États-Unis dans les années 70, éloignée des mouvements féministes français pendant plusieurs décennies, la penseuse est aujourd'hui une icône pour des générations de militantes lesbiennes et féministes. Alors comment comprendre cette renaissance, ce renouveau? Comment les instruments de la pensée Wittig peuvent-ils nous permettre de comprendre le monde contemporain? Pour tenter de le saisir, justement, une invitée ce soir, Sarah Garbagnoli, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay, bonsoir aux personnes qui nous écoutent et merci de m'avoir invitée.
Merci à vous d'être présente. Vous êtes sociologue, féministe, chercheuse indépendante rattachée à l'université Paris 8 et à l'université de Vérone en Italie. Vous avez dirigé avec Natacha Sedkutyrskovic, La pensée Wittig, une introduction, c'est aux éditions Payot. Et en 2024, vous avez signé Dans l'arène ennemie, qui rassemble des textes, articles et entretiens inédits de Monique Wittig. C'était aux éditions de Minuit. Merci d'être présente ce soir dans Questions du soir.
Pour moi, c'est magnifique le monde des femmes. Ce sont les êtres qui sont les plus riches, les plus surprenantes, les plus extraordinaires, parce que Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles ont été opprimées si longtemps, peut-être parce que je les désire tout simplement. Mais comme les garçons ont des cheveux longs maintenant, il m'arrive de voir des femmes. Je ne vois plus que des femmes. Quand j'étais gosse, j'étais élevée avec des femmes, et uniquement avec des femmes. J'étais très bien. Après, j'étais très mal parce que tout ça a changé. Il a fallu vivre dans un autre monde. Où, tout d'un coup, la vraie valeur, c'était les hommes. Moi, je n'avais pas appris à penser comme ça, du tout. Ça a été un choc pour moi de découvrir, et à travers les livres, et à travers la réalité de tous les jours, que la vraie valeur de ce monde, c'était les hommes. Et que nous, on n'existait pas, alors que pour moi, c'était nous seuls qui existions, d'abord.
Monique Wittig qui s'exprimait en 1973, Sarah Garbagnoli, je le disais en introduction, hein, une place Monique Wittig inaugurée la semaine dernière à Strasbourg. Elle revient de loin quand même, Monique Wittig, il a fallu du temps pour qu'elle soit reconnue par les instances publiques, par les responsables politiques, en tout cas une certaine frange d'entre eux.
Absolument. En effet, depuis une dizaine d'années désormais, l'œuvre de la théoricienne, de la militante et de l'écrivaine Monique Wittig suscite, et heureusement, une importante effervescence intellectuelle, politique, artistique, éditoriale. Wittig connaît l'enthousiasme d'un public de plus en plus large. Il y a des conférences, il y a la réédition de ses textes, des nouvelles traductions, des recueils de textes qui sont publiés, comme vous disiez, dans La Reine Ennemie. Des rencontres, des lectures, des performances qui s'inspirent de son travail et qui sont un dialogue avec des militantes, avec des chercheuses et avec des artistes. Le nom de Wittig ou des extraits de ses œuvres sont arborés dans les pancartes de manifestations, sur des t-shirts, sur des tote bags. Un jardin à Paris à son nom, une rue à Danemarie, sa ville de naissance, une place, comme vous disiez, à Strasbourg, inaugurée samedi dernier, jour international de la visibilité lesbienne. Pourquoi Wittig ? Pourquoi avec une telle force de frappe aujourd'hui ? Eh bien, parce que Wittig a posé des questions radicales sur la domination et a donné des réponses radicales à ces questions. Et radical veut dire aller à la racine des choses et proposer quelque chose de vertigineux et d'oxygénant. Il s'agit de questionnements qui parcourent aujourd'hui les mouvements sociaux, les analyses, les théories contemporaines. Je pense notamment à la dénaturalisation de la catégorie de sexe, à l'hétérosexualité comme système d'oppression, à la démasculinisation de la langue, à la critique de notions d'humain et d'universel qui sont confisquées par les groupes dominants, à l'analyse du fonctionnement des systèmes d'exploitation et d'appropriation sexistes, hétérosexistes, racistes et capitalistes.
Alors
comme
on va
vous pouvez
essayer,
l'entendre, c'est extrêmement gênant.
C'est vaste et gênant, mais on va essayer de débattre justement, de discuter de tous ces points-là. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette année 2023. Pourquoi on classe cette année comme l'année Wittig? Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement du point de vue événementiel et qu'est-ce qui s'est passé dans le renouveau de sa pensée?
Wittig est devenu effectivement un point incontournable aujourd'hui pour des militantes et chercheuses et des artistes. Et comment sa pensée est arrivée jusqu'à nous? À travers ses œuvres, mais à travers aussi un travail de transmission extrêmement important qui a été fait par des personnes proches de Wittig. Sandé Tsai, qui était sa compagne, qui est co-auteur de Wittig, Dominique Sanson-Wittig, qui est sa nièce, Suzette Robuchon, qui est militante et présidente de l'association Les Amis de Wittig, Louise Turcotte, militante lesbienne et amie de toute une vie de Wittig. Je pense aussi au travail de chercheuses lesbiennes et queer qui ont, depuis des années, travaillé sur Wittig. Tout cela nous a permis, effectivement, de ne pas oublier cette pensée radicale qui change la vie des gens. Je parle de mon expérience. Dès que je l'ai lu, ma vie a changé à mieux. C'était comme trouver un bonbon d'oxygène. C'était comme avoir de nouvelles lunettes pour voir le monde, pour voir la domination où normalement le sens commun met juste la différence des natures. Et c'est intéressant de dire comment la performance d'Adèle Haenel, qu'elle consacre actuellement à Monique Wittig, s'intitule précisément « Voir clair avec Monique Wittig ».
Qu'est-ce que la quatrième vague de MeToo, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, a permis justement de jouer dans le renouveau, la renaissance de cette pensée? Est-ce que c'est aussi un contexte qui favorise cette réémergence et cette reconnaissance?
Certainement, c'est aussi un contexte politique qui interroge la dimension structurelle du système hétérosexuel qui s'approprie les femmes, les groupes minoritaires et qui se fonde sur un système de perception naturaliste que Wittig a appelé la pensée straight. Donc certainement, elle rentre en résonance avec des questionnements qui traversent les fractions les plus radicales des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement LGBTQI, à plus que ce soit le mouvement antiraciste.
Alors Monique Wittig, racontez-nous d'abord d'un point de vue biographique, Qui était-elle et justement comment est-elle entrée dans le vaste monde de la pensée ?
Donc Wittig, née en Alsace en 1935, elle s'est fait connaître comme écrivaine très très talentueuse en 1964 au moment de la publication du roman intitulé Le Poponax qui obtient le prix Médicis et suscite l'admiration de Marie-Éric Duras, de Claude Simon ou encore de Nathalie Sarraut, qualifiée par Wittig de grand révolutionnaire et de génie du XXe siècle. En 1970, quelques années après, Wittig a publié déjà les guerrières, mais contribue en cette année-là à l'émergence, tant par les actions qu'elle mène que par les articles théoriques et politiques qu'elle publie, à l'émergence du mouvement de libération des femmes, dont elle animera la tendance révolutionnaire, anti-essentialiste et matérialiste. Quelques années après, elle publie son troisième roman, Le corps lesbien, qui est la conséquence directe, comme elle le dit, de son engagement dans l'OMLF et cofonde, notamment avec Christine Delphi, le collectif lesbien Le Guin Rouge, qui aspire à faire émerger une polarisation, une politisation d'une voix lesbienne au sein du mouvement. Elle poursuit cette voie de politisation du voix lesbienne en travaillant la création d'un front lesbien international qui échoue en raison de lourdes résistances tant en dehors du mouvement qu'à l'intérieur du mouvement.
Je me permets juste justement sur cette question, sur ce moment de son existence, de son engagement aussi. Qu'est-ce qui crée les frictions qu'on a rencontrées plus tard avec le MLF, avec le mouvement de libération des femmes ? On se souvient qu'elle a fait partie de ce moment fondateur, hein, le moment où elle a posé une gerbe devant le soldat inconnu en expliquant qu'on avait largement oublié la femme de ce soldat. Elle fait partie de ce moment fondateur du MLF et dans le même temps, on a l'impression, par la suite, qu'elle y est largement marginalisée. Comment le comprendre ?
Alors, elle écrit en 74 « Si le mouvement féministe meurt, je meurs ». Ça donne la dimension politique et existentielle qui lie Wittig au mouvement qu'elle a contribué à fonder. Elle pensait le mouvement féministe, comme je disais, de manière révolutionnaire, de manière matérialiste, de manière anti-essentialiste. Mais sa vision était qu'une vision qui animait, comme tout mouvement social, le mouvement. Il y avait d'autres visions, d'autres points de vue, d'autres fractions, d'autres courants. Donc, la vision de Wittig n'était pas majoritaire. L'envie politique de Wittig d'autonomiser une voix lesbienne pour faire émerger un point de vue radical concernant l'émancipation sociale a été de plus en plus isolée et cette déception est décisive pour la pousser en 76 à quitter la France et aller habiter aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Elle accuse le mouvement féministe de renoncer à la visée révolutionnaire qui devrait le caractériser, de renoncer à mettre en discussion les catégories hommes et femmes et à renoncer à vouloir détruire les groupes hommes et femmes. Parce que c'est là, c'est l'existence de ces deux groupes et c'est l'existence de ces deux catégories qui sont au fondement de l'oppression des femmes, de l'oppression des groupes minoritaires politiques.
Est-ce que c'est pour ça, vous estimez vous-même, Sarah Garbagnoli, qu'en retour, justement, peut-être aussi en contrepoint de cette radicalité, une part des mouvements féministes majoritaires en France l'ont marginalisée ? Est-ce que, j'allais dire, du point de vue de ces mouvements-là, cette volontaire, cette démarche de la mettre de côté ou du moins même de la mettre à part ?
Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je peux dire que sa radicalité est gênante. Est gênante, comme je disais, pour toute personne, et est gênante aussi pour des militantes qui n'épousent pas un projet qui soit si révolutionnaire. Dire que les hommes et les femmes ne sont pas des groupes naturels, mais qui sont des classes antagonistes qu'il faudrait détruire, ça donne des vertiges. Ça donne l'oxygène pour certaines, mais en général, ça donne des vertiges, parce que ça veut dire mettre en discussion l'évidence la mieux ancrée dans nos automatismes de pensée et même dans nos automatismes de langage.
Je voudrais qu'on essaye de comprendre justement cette pensée grâce à vous. Commençons peut-être par la notion première, la notion principale de cette doctrine. L'hétérosexualité, pour elle, pour Monique Wittig, est perçue comme un régime politique. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, elle prend à objet de sa théorie l'hétérosexualité, c'est-à-dire un objet qui ne faisait pas l'objet d'analyse du mouvement féministe, qui parlait plutôt de patriarcat. Mais pour élaborer sa théorie de l'hétérosexualité, qu'elle ne pense pas comme une orientation sexuelle ni comme une institution, elle construit sa réflexion au sein d'un paradigme théorique bien spécifique qui s'appelle le féminisme matérialiste. Il faut partir de là pour comprendre sa théorie de l'hétérosexualité. Au sein de ce paradigme, effectivement, les sexes sexes sont pensés comme des classes antagonistes naturalisées. Une fois qu'on a dit ça, Monique Wittig essaye de comprendre comment effectivement ces classes sont constituées par des rapports de domination qu'après on voit transformés aussi dans le langage et dans le monde symbolique par des rapports catégoriaux. Elle dit, on vit dans un régime, dans une chape de plomb qui nous fait penser que les hommes et les femmes sont des groupes naturels. Et tout ça est lié au fait que les hommes s'approprient des femmes, de leur corps, de leur temps, de leur tête aussi, de leur esprit. Et que cette appropriation peut se reproduire de manière inertielle et si facilement parce qu'elle n'est pas vue comme telle. Et elle n'est pas vue comme telle parce qu'il y a un système de perception du monde essentialiste qui, à la place de nous montrer l'oppression des femmes, nous parle des femmes comme des êtres naturels et par nature différentes. Eh bien, dit Wittig, il faut détruire ce régime politique qui a une base économique, l'appropriation des femmes, et qui a une base catégorielle qui est effectivement l'idéologie naturaliste. Il faut détruire des rapports sociaux et il faut détruire un système de perception.
La pensée straight, justement, qu'est-ce qu'elle appelle la pensée straight? Comment comprendre ce qui se cache derrière cette expression?
En fait, comme je disais, c'est un système de perception du monde qui est fondé sur les catégories qu'on pense être des catégories sans lesquelles on ne peut pas penser. C'est la catégorie homme, femme, sexe, c'est la catégorie nature, mais il met dedans aussi la catégorie blanc, noir et race. En fait, à travers cette perception du monde, on pense que les groupes sociaux, les groupes qui sont construits à partir des rapports de domination économique et sociale sont des groupes naturels. Les hommes et les femmes seraient des groupes naturels. Les blancs et les non-blancs seraient des groupes naturels. Eh bien, Wittig renverse tout cela. Elle met de l'histoire et de la politique là où le sens commun y inclut le sens commun savant, y met de la nature.
La voix encore une fois de Monique Wittig, cette fois-ci c'est en 1972.
Oui. Je trouve que l'expérience d'une femme, et en particulier d'une femme écrivaine, est complètement schizophrène. Il faut toujours faire la coupure entre les deux. D'une part, employer un langage qui n'est pas le nôtre, essayer de s'insérer dans une culture qui n'est absolument pas la nôtre, que nous n'avons même pas choisie, qui est une culture patriarcale par essence. Et je ne vois pas comment on peut s'abstraire de ça. Enfin, je trouve qu'il y a une coupure complète entre le fait de cette culture qui pèse sur nous si fort, avec toutes ces contraintes, toutes ces fascinations pour une certaine érudition, pour une certaine pratique du langage, etc. Et la lutte qu'on mène sur un autre plan, enfin, qui est de casser tout ça, d'essayer de faire passer dans ce langage et avec ce langage autre chose, enfin.
Comment elle aborde, Sarah Garbagnoli, cette vision du langage des dominants, pour reprendre son expression, comment elle l'utilise, comment elle s'immerge à l'intérieur et comment elle l'instrumentalise finalement?
Alors, il faut dire que Wittig se pense d'abord comme écrivaine. Elle écrit dans l'introduction à la pensée straight, l'écriture est ce qui lui tient le plus au cœur. Et pourquoi? Parce que le langage, en fait, est la matière première de l'écriture et de la littérature. Et le langage est vu par Wittig comme un opérateur de différents degrés d'humanisation, selon qu'on soit un homme ou une femme, selon qu'on soit un sujet minoritaire ou un sujet majoritaire, on devient absolu au relatif de le langage. D'où la nécessité pour elle, qui se pense comme écrivaine minoritaire, consciente de l'être, de s'engager dans ce qu'elle appelle un corps à corps avec le langage et avec ses présupposés hétérosexuels et majoritaires. Donc il faut lesbianiser le langage, cela veut dire travailler sur sa forme, déshétérosexualiser la forme du langage en travaillant sur les pronoms, sur les catégories et aussi en travaillant sur le canon littéraire pour lui faire dire quelque chose qui n'était pas censé dire.
Mais comment comprendre alors justement si je vous suis? D'ailleurs, c'est la première notice de votre livre, la première page, vous dites Monique Wittig est écrivain. Pourquoi écrivain et non écrivaine alors justement?
À l'époque, elle essayait de revendiquer l'universel en disant le masculin a confisqué l'universel. Et donc à l'époque, sa bataille, c'était de ne pas féminiser le langage, mais c'était en réalité, son projet était celui de déshétérosexualiser la langue. Si on regarde son travail littéraire, on voit qu'elle propose des tentatives avec un travail sur les pronoms, avec un usage intensif du pronom « on » dans le Poponax, le pronom impersonnel, avec l'usage intensif du pronom « elle, dans son deuxième roman, Les Guerrières, et c'est pas du tout, elle explique une féminisation de la langue, mais une tentative d'universalisation du point de vue minoritaire, au point que dans le livre, une fois qu'on a, disons, vaincu la guerre contre les dominants, tout le monde se décline à elle, et expérimentation linguistique et pronominale encore plus étonnante, c'est le jeu qui est le protagoniste du troisième roman de Wittig, publié en septembre 1973, Le corps lesbien. Ce jeu traversé par un slash dit à la fois la déchirure d'une subjectivité minoritaire, d'une subjectivité qui se pense comme relative dans le langage, mais qui veut devenir autre chose. Et donc ce jeu avec un slash n'est pas seulement un sujet pris par une déchirure, mais aussi une épine dans la chair du pied de la société hétérosexuelle, et aussi un sujet, elle dit Wittig, exalté, qui veut lesbianiser le monde. Et encore une fois, lesbianiser veut dire déshétérosexualiser les rapports sociaux et les rapports catégoriaux.
Vous avez parlé du texte Les Guerrières, signé Monique Wittig. Toujours, on va entendre un extrait justement lu par Virginie Despentes.
Jadis, vous avez compris que nous nous sommes battus pour vous en même temps que pour nous. À cette guerre qui a été aussi la vôtre, vous avez pris part. Aujourd'hui, ensemble, répétons comme un mot d'ordre que toute trace de violence disparaisse de cette terre. Alors, le soleil a la couleur du miel et la musique est bonne à entendre. Eux applaudissent et crient de toute leur force. Ils ont apporté leurs armes, elles les enterrent en même temps que les leurs, en disant que s'efface de la mémoire humaine la guerre la plus longue, la plus meurtrière qu'on ait jamais connue. La dernière guerre possible de l'histoire. Elles souhaitent aux survivantes et aux survivants l'amour, la force, la jeunesse, qu'ils fassent une alliance durable sur des bases qu'aucun différent ne pourra compromettre à l'avenir. Quelqu'une se met à chanter. Semblable à nous, ceux qui ouvrent la bouche pour parler, mille grâces à ceux qui ont entendu notre langage et ne l'ayant pas trouvé excessif, se sont joints à nous pour transformer le monde.
Lecture dite à la Maison de la Poésie, Sarah Garbagnoli, vous avez dit au début de cet échange que la lecture, la découverte de Monique Wittig avait transformé votre vie en profondeur, intensément. Comment justement ce texte a participé à votre transformation, plutôt aussi à votre, j'allais dire, votre accessibilité à l'œuvre plus générale de Monique Wittig?
Oui, effectivement, c'est un texte magnifique qui raconte la victoire d'une guerre. Et la guerre, c'est la guerre des tous les groupes minoritaires contre les groupes majoritaires. Et c'est une guerre qui se déploie avec une violence inouïe. D'ailleurs, Wittig célèbre la violence comme manière pour agir contre la violence de l'oppression. Et cette violence, en fait, permet de faire maille par maille tout le système de domination qui se manifeste dans les rapports sociaux, dans les rapports d'appropriation, dans les rapports linguistiques. Et déjà, en poésie, on voit toute la théorie de Wittig de la domination, de la nature, du statut du langage et aussi de la libération qui se fait à travers une politisation de sa propre souffrance, une politisation collective de la souffrance. Elle parle dans dès le Poponax à Virgile Non de la passion active. Et cela veut dire, la passion, c'est pathein, c'est ce qu'on subit, c'est la souffrance. Et elle devient active une fois qu'on l'a comprise politiquement et qu'on arrive à comprendre que toute libération et toute forme de liberté passe par la politisation de la contrainte, par la lutte collective. Et sans conscience des déterminismes sociaux, il n'y a pas de marge de manœuvre possible pour notre émancipation.
Est-ce que la renaissance de cette pensée s'explique aussi par le fait qu'aux États-Unis, la situation pour les minorités, la situation en particulier pour les lesbiennes est de plus en plus difficile, du fait notamment de l'élection de Donald Trump? Est-ce que ce contexte-là favorise, j'allais dire, la réémergence de sa pensée et surtout la réappropriation des instruments qu'elle offre?
Alors en fait, Monique Wittig donne de l'oxygène. Je vous disais, ça me donne de l'oxygène. Adèle Haenel nous dit que Monique Wittig nous donne des lunettes. Mais elle enlève de l'oxygène et elle enlève des lunettes à d'autres personnes. Elle enlève des lunettes et elle enlève l'oxygène au molosse de l'ordre patriarcal, raciste et capitaliste en vigueur. Tout ça veut dire que sa pensée, qui dénaturalise les évidences du monde social, gêne énormément cette internationale de réactionnaires qui, du Vatican à Trump, en passant par Milley, en passant par les mouvements anti-avortement, les groupes anti-féministes, les groupes racistes, les groupes anti-LGBT, attaquent non seulement les minorités raciales et sexuelles, mais les mouvements sociaux et, c'est la première fois dans l'histoire, les catégories et les théories que ces sujets minoritaires ont forgé pour penser la domination. On n'avait jamais vu des milliers de gens défiler dans les rues avec des pancartes contre des catégories sociologiques. La catégorie sociologique de genre, la catégorie sociologique de race, de racisation, d'intersectionnalité. En fait, il est aussi intéressant de voir que ces auteurs utilisent depuis le début des années 2000 la figure de cheval de Troie pour qualifier l'entrée des minoritaires dans le champ du savoir et dans le champ politique et pour le stigmatiser. Eh bien, qu'ils le sachent ou non, Wittig a théorisé la figure du cheval de Troie déjà dans les années 80, pour penser la prise de parole des sujets minoritaires dans le champ littéraire et plus généralement dans le monde social. Il s'agit pour elle de rentrer dans l'arène ennemie et de casser les évidences, de casser les rapports socio-économiques d'appropriation et de casser les rapports catégoriaux qui vont avec ces rapports d'appropriation socio-économique.
C'est aussi le fait évident que l'on parle de plus en plus des questions de sexualité qui permettent de redonner un dynamisme nouveau à la pensée de Monique Wittig.
Ça, je ne suis pas certaine, parce qu'en fait, son intérêt était pas tant la sexualité que l'hétérosexualité, définie non comme une orientation sexuelle, mais comme un régime économique, social et politique. Donc c'était vraiment sa vision systémique, matérialiste, antagoniste et constructiviste qui la place aujourd'hui au centre de l'attention d'intellectuels, de militantes et d'artistes.
Est-ce que vous diriez que la pensée de Monique Wittig est une pensée idéaliste, utopiste, ou dans le fond on est en réalité bien bien loin de cela ?
Je dirais qu'elle est absolument matérialiste, c'est-à-dire qu'elle est à la fois constructiviste et antagoniste, qu'elle s'ancre dans l'histoire et que le fait d'être matérialiste lui donne aussi une dimension utopique. Parce que théorie et utopie vont ensemble. Il faut, pour imaginer quelque chose qui n'existe pas encore, faire la théorie de quelque chose qui existe et faire la théorie de manière matérialiste en prenant à objet l'imbrication entre rapports socio-économiques d'exploitation et rapports catégoriaux qui traduisent cette exploitation dans le domaine linguistique et symbolique. Donc c'est tout à fait matérialiste et utopiste à la fois, et c'est joyeux que ça soit comme ça.
Voilà ce qu'on trouve dans votre livre, pour citer Michel Foucault, c'est notre fiction qui nous constitue. Notre rupture pratique consistera donc en la production de textes inattendus. C'est quoi un texte inattendu justement ? C'est un texte qui va contre l'ennemi décrit plus tôt ?
Absolument, c'est un contre-texte, elle parle aussi de contre-textes, qui ont pour fonction de remettre en vie des sujets, des histoires, des vies, des luttes qui ont été effacées. Parce que la question de l'histoire, en fait, hante Monique Wittig. Elle dit l'histoire est construite avec les catégories straight. Eh bien, elle a envie de faire des contre-textes qui se soient aussi des contre-histoires. Là, on voit l'importance de la figure de la lacune. Elle dit il faut reporter en vie des vies qui ont été effacées, notamment la vie des femmes, la vie des lesbiennes, mais aussi la lacune fonctionne comme quelque chose non seulement qui a été effacé, mais qui n'existe pas encore. Et donc, elle fait vivre à la fois ce qui a été effacé par la conjuration du silence, elle parle comme ça des lesbiennes, mais aussi quelque chose qui est encore de l'ordre de l'inimaginable, comme l'au-delà de la catégorie de sexe.
Merci beaucoup Sarah Garbagnoli de ces explications, de cette introduction à la pensée de Monique Wittig. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse indépendante rattachée à l'université de Vérone en Italie. Et le titre de cet ouvrage que vous co-dirigez et qui vient de paraître, La pensée Wittig, une introduction, c'est aux éditions Payot. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Vous êtes bien sur France Culture.
Ozadig, je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie.
Pour préparer son bac, consolider sa culture générale ou juste pour le plaisir de redécouvrir les classiques littéraires, plongez-vous dans l'œuvre des grands auteurs.
Ai-je tort de m'abandonner à ces douze impressions ?
Je ne dis pas cela.
Molière, Racine, Voltaire, Stendhal, Hugo, Balzac, Zola.
Ce n'est pas la première fois que je regrette de ne plus être votre esclave.
Bravo ! Les chefs-d'œuvre inoubliables, un podcast à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France. La chercheuse en sciences cognitives Barbara Tillman nous fait découvrir comment le cerveau traite la musique et comment la musique permet de stimuler le cerveau.
Lorsque vous entendez une musique, cela peut évoquer un sentiment de familiarité grâce à ces nombreuses musiques stockées en mémoire.
Votre cerveau, saison 10, les pouvoirs de la musique. Réalisation Charlotte Roux, à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci à toute l'équipe de Questions du Soir, Stéphanie Villeneuve, Audrey Carme, Fanny Richet, Bertie Bourdon, Mathias Mégy, Roxane Poulin, Rodi Eken. À la réalisation, c'est François Richet. Aux manettes ce soir, c'était Grégory Wallon. Et vous avez rendez-vous tout de suite dans le cadre d'A Voix Nue avec un pionnier de la médecine fœtale en France, le professeur Israël Nizan, qui n'a cessé de s'engager dans le débat bioéthique et à améliorer la condition des femmes. Il est interrogé par Éric Lemasson.
À Voix Nue, Éric Lemasson. Avec Israël Nizan,
gynécologue obstétricien, parce que préoccupé par la cause des femmes depuis 50 ans.
Épisode 5, on ne se reproduit jamais. Israël Nizan, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous raconter pourquoi et comment un beau matin à Strasbourg, vous avez décidé de prendre votre bâton de pèlerin et frapper à la porte des collèges et des lycées pour y rencontrer des adolescents dans le but de leur parler sexualité et de répondre à votre manière, c'est-à-dire sans détour aucun aux questions que nos chères têtes blondes se posent. Mais avant d'aborder cette question de la sexualité des adolescents, je voudrais revenir sur, dans ces années plus récentes, sur une polémique. Vous en avez été l'un des artisans ou l'une des victimes, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, vous avez un talent particulier pour vous retrouver au centre de polémique. Avouez-le, je veux parler de l'histoire de la pilule de 3e et 4e génération. Que s'est-il passé lorsqu'on vous a accusé de conflit d'intérêts et de défendre des pilules qui étaient dangereuses, vous, le professeur Nizan?
Enfin, elles sont dangereuses, elles sont utilisées dans tous les pays du monde. Quand la France est le seul pays à déclarer qu'elles sont dangereuses, c'est pas que tous les autres se trompent. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le candidat à la présidence de la République avait promis la gratuité de l'IVG. Que peu de gens demandaient d'ailleurs. La gratuité, c'est-à-dire pas de ticket modérateur. On peut admettre cela, mais aucun ministre voulant appliquer le programme du candidat président ne peut engager une dépense de plusieurs millions d'euros aux dépens de la sécurité sociale sans dire les recettes qu'il met en face de cette dépense. Surtout qu'il s'agissait de 15 à 20 millions d'euros par an. Donc la gratuité de l'IVG, il fallait trouver des recettes. Et la recette qui a été trouvée par le ministre de l'époque a été de dire « on va jeter l'anathème sur les pilules de 3e génération, de telle sorte que ces pilules, on n'ait plus besoin de les rembourser, parce que cette dépense-là était à peu près équivalente à la dépense de la gratuité de l'IVG. »
Pardon, je vous interromps. Ça, c'est la façon dont vous présentez l'histoire. Je vais vous lire comment le journal Le Monde, daté du 10 janvier 2013, présente l'histoire, qui est tout à fait autre. C'est ça qui est intéressant. Je cite Le Monde. « Pourquoi les médecins ont-ils continué de prescrire à la moitié de leurs jeunes patientes des pilules de 3e et 4e génération en dépit des recommandations contraires de la Haute Autorité de Santé depuis 2007 ? Sans doute parce que les alertes sur la dangerosité de ces contraceptifs ont été couvertes par une autre musique omniprésente, le discours des gynécologues les plus médiatiques de France. Et c'est notamment vous qui êtes visé, professeur Israël Nizan, ces experts à la télévision poursuivent Le Monde qui viennent dire qu'il faut prescrire ces pilules alors que des hautes autorités de santé disent qu'il ne faut pas les prescrire. Donc on n'y comprend plus rien et c'est certainement l'inverse de ce que vous venez d'expliquer auparavant.
Tout à fait, mais pourquoi en 2009 le gouvernement a-t-il décidé de les rembourser ces pilules de 3e et 4e génération ? Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a des femmes qui ne supportent pas les pilules de 2e génération et pour qui, pour des raisons cutanées, pour des raisons hormonales, avaient besoin d'une autre pilule et par souci de trouver des contraceptions qui s'adaptent pour tout le monde, on a remboursé les pilules de 3e génération. J'ajoute que personnellement, je n'avais jamais jusque-là prescrit de pilules de troisième génération. Car je disais aux labos qui venaient me les présenter, ces nouvelles pilules, j'estime que la contraception doit être remboursée, ce n'est pas une thérapeutique de confort, et vos pilules de troisième génération, je ne les prescrirai pas tant qu'elles ne sont pas remboursées. En 2009, l'une d'entre elles est remboursée. Le laboratoire vient me voir et me dit « Vous devriez être content, on en rembourse une. » Ben, j'ai dit « Oui, maintenant, celle-là, je vais pouvoir la prescrire de temps en temps quand j'en ai besoin, parce que c'est enfin remboursé. » Ils m'ont fait venir à une conférence de presse pour annoncer le remboursement d'une pilule de troisième génération. Et ça, ça a été pris comme argument pour montrer que j'étais un de ces leaders d'opinion qui était favorable aux troisième génération. Je n'y étais favorable que dans le cas où elles étaient remboursées par la Sécurité sociale.
Ce qui en ressortait dans la presse, c'était qu'en gros, vous étiez l'archétype du médecin pris dans un conflit d'intérêts, porte-parole des grands labos pharmaceutiques pour vendre des nouvelles pilules.
Sauf que les conflits d'intérêts, on les voit. Les laboratoires sont obligés de déclarer les stylos ou les petits déjeuners qu'ils donnent à un médecin. Et je n'ai jamais accepté quoi que ce soit d'aucun laboratoire. Donc, il n'y avait aucune preuve. C'était une assertion juste faite pour me dézinguer.
Pour mieux comprendre, revenons quand même. Il y a un cas d'un décès d'une jeune femme qui prend cette nouvelle pilule de troisième ou quatrième génération, qui est victime de thrombose, qui décède et qui va être ce cas qui est probablement rare, va en tout cas être montré en exemple ou bien monté en épingle, je ne sais pas, pour dénoncer la dangerosité de ces pilules. Alors que vous, si je comprends bien, vous dites qu'au contraire, statistiquement, il y a bien moins d'effets secondaires et de risques pour ces femmes avec ces nouvelles pilules. C'est bien ça ?
Le risque de thrombose existe même en l'absence de pilules. De tout temps, il y a eu des hommes et des femmes qui, ayant une anomalie de la coagulation, font des thromboses. Alors, est-ce que la pilule augmente ? La réponse est oui. Elle augmente x2. On part de chiffres qui sont de l'ordre de 1 pour 1 million. Et on est à 2 pour 1 million. Mais la grossesse, on est à 12 pour 1 million. Et le postpartum, on est encore plus haut. Donc, pour moi, effectivement, il y a un effet négatif. C'est pas un bonbon, la pilule. C'est un médicament qui doit se prescrire. Parfois, le médecin doit vérifier qu'il n'y a pas de problème de coagulation dans la famille. Et tout ça, les médecins le savent. Dire tout d'un coup « Attention, les pilules de troisième génération font plus de mal que les autres », c'est effrayer la population. Et on a vu, dans les suites de cet effarouchement, une augmentation des IVG, surtout liée au fait que les femmes ont utilisé des contraceptions non hormonales, parce qu'on leur a dit de partout, sur toutes les radios et sur toutes les télés, que cette horreur de pilules hormonales, et ça a valu pour les deuxièmes générations et pour toute la contraception, les jeunes femmes se sont tournées vers des contraceptions non médicales.
Oui, c'est ça l'effet pervers de cette affaire, c'est que finalement, l'usage de la pilule a chuté.
Il a chuté drastiquement au profit, et c'est peut-être une bonne chose, des dispositifs intra-utérins, parce que celui-là, on l'oublie pas, alors que la pilule, on l'oublie. Je parle des jeunes, toujours. Mais j'ai trouvé qu'on me faisait un très mauvais procès de dire que j'étais un leader d'opinion payé par les laboratoires. Ça n'a jamais été le cas de ma vie. Et affirmer cela sans avoir aucune preuve et en sachant bien, dans le fond, que ce n'était pas le cas, c'était destiné à m'inhiber dans une conférence de presse que je m'apprêtais à donner le lendemain, avec le titre suivant « Contraception en Berne, IVG gratuite, quel est le message ?»
Ce que vous sous-entendez, c'est que vous vous retrouvez alors au centre d'un billard à plusieurs bandes, avec plusieurs acteurs, et vous parlons clairement, les autorités de santé publique, le gouvernement, le ministère de la Santé, ne veut pas, n'a pas les moyens de rembourser la pilule de troisième, quatrième génération, qui est plus cher, veut, comme il y a eu un engagement présidentiel, faire l'IVG gratuite pour toutes, et qu'on utilise cette affaire de cette jeune femme décédée pour vous discréditer et surtout discréditer les nouvelles pilules.
Il s'agissait de dire aux femmes, d'ailleurs on va retirer ces pilules du marché. Ils ont demandé à la communauté européenne de retirer ces pilules du marché, mais les gens des autres pays ont rigolé, et d'ailleurs elles sont toujours aujourd'hui sur le marché, alors que si c'était des médicaments si dangereux, on les aurait retirés, donc ça montre bien que c'était pas un problème de danger pour la population, c'était juste un problème d'équilibre des comptes de la sécurité sociale. C'est pour ça que quand je vois une jeune femme qui, à 18 ans, en est à sa cinquième IVG, et qui me dit « De toute façon, l'IVG, c'est gratuit et la pilule, j'en suis de ma poche. » Je dis que si on avait voulu faire beaucoup d'IVG, on s'y serait pas pris autrement. Je dis qu'on marche sur la tête.
Et comme si cette polémique ne suffisait pas, vous en rajoutez une couche en disant « Moi, je milite pour la gratuité de la pilule contraceptive pour les mineurs et de façon anonyme. » Et là, vous avez contre vous des associations familiales, des associations religieuses, la bien-pensance traditionnelle.
C'est surtout la confidentialité de la contraception avant 18 ans, parce que il y avait une feuille de sécu qui arrivait aux parents. Donc les parents savaient que leur fille avait acheté des pilules à la pharmacie. Les adultes vivent de la confidentialité de leur sexualité. Pourquoi nos adolescents n'y auraient pas droit?
Et donc, parce qu'ils sont mineurs, docteur.
Elles sont mineures, mais sur le traitement du sida, on a accepté, parce qu'on a vu que si les parents devaient donner l'autorisation pour traiter un sida, les ados ne se feraient pas soigner. On a accepté pour le sida qu'il n'y ait pas besoin de l'autorisation parentale. Et d'ailleurs, pour l'IVG, ça fait depuis pas mal de temps, depuis 2002, que une jeune femme mineure peut venir nous demander une IVG sans que les parents le sachent. On va même jusqu'à faire une anesthésie générale sans que les parents le sachent. Donc il y a une exception, une espèce de bulle qui s'appelle le droit des adolescents d'avoir une sexualité sans que leurs parents le sachent. Et c'est très bien ainsi.
Mais encore une fois, je reviens finalement à la première question que je vous avais posée au tout début du premier entretien de ce premier épisode de À Voix Nue. Vous semblez aimer la bagarre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous aviez besoin d'en rajouter une couche sur la gratuité et l'anonymat sur la pilule?
Qui était l'avocat de nos jeunes? Moi, les jeunes femmes, je les voyais venir pour des IVG, et je peux vous dire que s'il y a une chose qui m'émeut, c'est qu'une femme de 15 ou 16 ans termine sa première histoire d'amour sur une table d'opération. Je pense que ça peut laisser des séquelles à vie. Je n'aurais pas voulu que ma fille vive ça, et je voyais des centaines de jeunes femmes vivre ça, et j'étais pas d'accord avec cela. Voilà.
Plus généralement, cette affaire montre aussi que, comme dans d'autres domaines, la parole du spécialiste, la blouse blanche que vous êtes, est un peu démonétisée de nos jours, puisque tel blogueur ou telle influenceuse a finalement bien davantage de followers que vous et davantage écouté, et va prescrire à la France entière de la jeunesse de ne pas prendre la pilule.
Les experts n'ont plus la cote, et je pense que ça, c'est quelque chose qui entrave le bon fonctionnement de la démocratie. Ça a lieu en santé, ça a lieu en politique, ça a lieu dans tous les domaines, malheureusement.
Alors, la sexualité des adolescents, parlons-en. Je vais juste raconter en introduction qu'en tant que journaliste, un jour, j'ai assisté moi-même à l'une de vos interventions auprès des ados dans un collège d'un quartier populaire de Strasbourg, auprès de gamins pour lesquels parler sexe était une incongruité totale. Comment dire? Vous avez peur de rien. Aujourd'hui, on dirait « c'est chaud ». Autrefois, on aurait dit que c'était rock'n'roll, mais c'est incroyable. Racontez comment ça se passe et comment vous est venue cette idée d'aller rencontrer les petits jeunes des quartiers de Strasbourg pour leur parler sexe.
Ça m'est venu à Poissy parce que je voyais, chaque fois que je passais la visite, des gamines de 16 ans qui n'avaient même pas eu accès à l'IVG et qui accouchaient. Et je me suis dit que ces gamines venaient toutes du petit collège qui avait de l'autre côté de la rue, mais personne n'avait pris le temps de leur dire comment on fait pour entrer en sexualité. On leur a appris à traverser la rue sans se faire renverser en regardant à droite et à gauche, mais on ne leur a pas appris qu'elles peuvent dire non, qu'à chaque rapport, il faut savoir si ça donnera lieu à un enfant ou pas. Pas appris. Et donc, j'ai été voir le directeur de l'école, j'ai dit « je vous propose mes services ». Pour essayer d'arrêter ce cycle de la pauvreté, parce que ces ados me disaient « Mais ma maman, elle m'a eu à 16 ans également. » Donc, pour elle, c'était presque normal d'avoir cette interruption volontaire de l'adolescence, qui est un accouchement à 16 ans. Ça a bien diminué les accouchements avant 18 ans. Ça a bien diminué à cause du recours à l'IVG qui est désormais possible et qui est connu de tous et qu'on peut avoir confidentiellement. Mais moi, je me suis dit, éduquer nos ados, venir leur parler face et leur dire voilà comment on fait et voilà ce que c'est l'homosexualité et voilà ce que c'est la jouissance sexuelle et la virginité, on va en parler. Et l'inceste, on va en parler. Je peux vous dire que les oreilles de Cocker se dressent et que c'est extrêmement important que nous suivions juste la loi de la France. La loi de la France de 2001 prévoit 4 heures par année d'âge depuis l'âge de 4 ans. C'est juste une loi qui décore les étagères du ministre de l'Éducation.
Parce qu'elle n'est pas appliquée.
Pas appliquée nulle part. On n'a pas de prévention de l'inceste. Touche pas à mon corps est à moi, ça doit se faire au CP. Il y a des pays qui ont 3 fois moins d'inceste que nous. Donc quand on n'éduque pas, c'est les fragiles qui payent. Les fragiles, c'est les enfants et c'est les femmes.
Quand vous arrivez dans un collège, bon, au tout début en tout cas, le principal du collège, le proviseur du lycée, quelle tête il fait quand vous lui dites « je vais venir parler auprès de tes élèves de choses très intimes ?»
Et ils me disent, vous savez, on a la formation pompier, on a la formation ceci, la formation cela, et ils ne sont pas obligés de le faire. Et quand j'ai demandé au ministre, envoyez un courrier à tous les directeurs d'établissement pour leur demander quelles sont les ressources humaines qu'ils ont pour appliquer la loi de 2001, ah non, ça je peux pas faire, vous comprenez, les associations parentales vont me tirer dessus. Ben alors, abrogez la loi. Si on peut pas l'appliquer, abrogeons-la. Pareil pour la loi sur la protection des mineurs. On a une loi. Essayez voir de distribuer dans la rue des images porno à des enfants. Ça se termine en prison. Mais si vous êtes un milliardaire du net, vous avez le droit de faire business as usual. Et ça, ça m'insurge.
Sur la pornographie comme moyen d'éducation sexuelle, on va y revenir. Mais revenons tout d'abord à ce que vous aviez appelé à l'époque info-ado. Ces dialogues et ces questions-réponses dans les collèges et lycées autour de la sexualité. Concrètement, racontez comment ça se passe. Vous arrivez et je crois que vous avez demandé aux élèves de poser dans une vasque des petits mots par écrit, anonymes, avec des questions. Et là, il y a tout.
Je réponds à tout et d'ailleurs, je demande aux enseignants de ne pas sélectionner les questions parce que souvent, ils ont envie de présenter leur établissement d'une manière propre et ça les gêne qu'il y ait des questions grivoises, voire carrément injurieuses. Et moi, j'ai besoin de répondre aux questions parce que d'abord, dans tel collège et dans tel autre, il n'y a pas les mêmes questions qui se posent dans la cour de récréation quant à la sécurité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu les mêmes films porno. Et donc, les questions me servent à aborder des sujets que je n'aurais pas pu aborder spontanément. Par exemple, la zoophilie. S'il n'y a pas de questions sur la zoophilie parce qu'il n'y en a aucun qui a vu un film de zoophilie, ben, il n'y a pas de questions. En revanche, je suis arrivé dans des collèges où il n'y avait que des questions sur la zoophilie, parce qu'il s'était passé le même film à tous. Donc les questions, ça me permet de repérer quelles questions se posent dans un collège, et ça me permet aussi de justifier mon intervention sur des sujets qui pourraient être considérés par les parents d'élèves comme marginaux, voire incitation à la débauche. Donc je suis de ceux qui estiment qu'on ne parle pas de sexualité à des enfants. À des enfants, on parle de protection de soi, de protection de l'autre, de respect de l'autre. Mais vient le moment de la génitalité, au moment de la puberté, où les parents ont besoin d'aide. Parce que l'ado se ferme. Et cette aide-là, elle ne peut venir que d'un tiers formé correctement.
Mais dans une époque où l'obscurantisme religieux se développe, c'est un euphémisme, et où, pour montrer des caricatures religieuses, on peut terminer dans un établissement scolaire décapité. Dans certains établissements, parler sexualité, c'est probablement perçu comme une provocation.
Alors, tout dépend quelle est la règle du jeu. Si ça fait partie, comme l'éducation physique, du programme scolaire, parce que le directeur d'établissement l'a décidé, eh bien c'est comme ça. Donc il y a ce que j'appelle le tronc commun des connaissances, et la sexualité, la vie affective et la sexualité en font partie.
Sauf que les équipes enseignantes se heurtent à des oppositions parfois. C'est pas préfèrent aux... finalement raser les murs.
C'est pas aux équipes enseignantes, comme ça ne peut pas être les parents, qui ont une relation verticale à l'enfant et qui interdisent, et s'ils n'ont pas interdit, c'est dramatique, ça ne peut pas non plus être les enseignants, parce que l'enseignant, il note, et c'est un pro-parent. Il faut que ce soit du tiers, qui a une relation horizontale et de complicité avec les élèves.
Alors, au cours de de ces rencontres et aussi publiquement, vous dénoncez le fait que c'est l'accès sans limite à la pornographie dès le plus jeune âge qui initie nos enfants à la sexualité, une sexualité caricaturale, irrespectueuse envers les femmes. On est vraiment dans une époque où vous dénoncez le fait que non seulement ça existe, mais que personne ne lève le petit doigt pour changer quoi que ce soit.
Malheureusement, et je peux vous dire que les milliardaires du net, ils mettent leurs enfants dans des écoles à l'abri de tout ça. Et le patron de TikTok vient de déclarer que ses enfants n'ont pas TikTok sur leur appareil de téléphone. Donc ces gens-là savent bien le mal que ça fait. Mais nous, comment peut-on se protéger si l'État ne nous protège pas? Je demande l'application de la loi sur la protection des mineurs. Un numéro de carte bleue avant la production de la première image, même si on ne fait pas payer derrière. Mais avec le numéro de carte bleue, on peut voir l'âge de la personne. Aujourd'hui, que font les sites pornographiques? Ils demandent, vous avez 18 ans? Oui, non, oui, on tourne la page et on va... De qui se moque-t-on? Donc, si la loi sur la protection des mineurs peut être bafouée à ce point-là, là aussi, abrogeons-la. Et donc, il me semble bien que le business as usual... Ces enfants ne dépensent pas d'argent sur des films porno, mais ils font des amorces gratuites. Et si 0,01% des gens qui ont vu l'amorce cliquent sur le film et l'achètent, c'est des millions et des millions de profits. Je veux lutter contre les amorces gratuites et contre le fait que nos enfants soient en stabulation libre devant ces images dès l'âge de 9-10 ans, avec des jeunes qui sont addicts, parce que l'addiction résulte de... traumatisme d'être tombé par hasard sur ces images, de l'excitation sexuelle qui va avec, et la rencontre du traumatisme, de l'excitation sexuelle et de l'interdit donne l'addiction. J'estime que faire ça et en même temps ne pas éduquer nos enfants, c'est une barbarie.
Ça paraît être le bon sens. Pour quelle raison ce n'est pas mis en place, à votre avis? Par faiblesse, par soumission à la loi des GAFAM pour quelle raison?
Soumission à la puissance des lobbies. Les lobbies sont jusqu'à présent encore bien plus puissants que la voix de 100% des parents de France qui sont derrière moi. Il n'y a aucun parent qui a envie que son enfant découvre la sexualité au travers d'images comme celles-là qui sont faites par des adultes pour des adultes. Je n'ai rien contre la pornographie. Que les adultes s'en servent pour eux, pour leur vie sexuelle, ne me dérange pas. En revanche, je suis dérangé par le fait que nos enfants n'ont pas pu constituer leur fantasmagorie psychosexuelle tout seuls et qu'on leur a donné un prêt-à-porter qui est l'almanach de la jouissance masculine et de l'humiliation féminine.
À Strasbourg, notamment lorsque vous étiez élu municipal, vous avez proposé ce que vous appeliez à l'époque une sorte de festival de Cannes de la bioéthique, c'est-à-dire un grand rendez-vous annuel au cours duquel vous feriez venir de façon pluridisciplinaire des experts pour débattre, exprimer, etc. Ça s'est appelé le Forum européen de bioéthique qui a lieu chaque année. Comment vous est venue cette idée, sachant que la population a répondu présente et des centaines de Strasbourgeois et d'Alsaciens viennent chaque année écouter ces débats au cœur de la ville?
Je participais à l'époque à beaucoup de rencontres de bioéthique entre savants et entre experts. Et on se mettait autour d'une table et on avait beaucoup d'avis extrêmement intéressants. Mais je me suis rapidement aperçu que le grand public estimait que la bioéthique était une affaire de médecins, une affaire scientifique à laquelle ils ne pouvaient pas participer. Depuis, les choses ont bien changé. On voit sur la fin de vie, c'est une discussion bioéthique. Tout le monde doit être capable de mettre les arguments les uns derrière les autres pour dire pourquoi il est contre et pourquoi il est pour. Et l'avis de tout le monde a de la valeur. Je me suis donc dit qu'il n'y avait aucune ville en Europe qui proposait au grand public de s'approcher des enjeux de la bioéthique, de se les approprier et même à la limite de lever la main et de donner son avis. Et on a essayé à Strasbourg, et la surprise, ma surprise, a été que les salles étaient combles, et que pour peu qu'on invite des gens qui savaient ne pas jargonner, et je les ai empêchés de montrer des diapos médicales, je les reprenais quand il y avait un terme qui était médical, quand les gens ont compris la qualité de ce qu'on leur offrait comme explication, et que sur chaque séquence de 2 heures, il y avait 1 heure réservée aux experts, et une mineur, réservé au grand public. Les gens se sont emparés, et ça continue encore aujourd'hui. On vient de passer la 14e édition, c'était sur l'intelligence artificielle, quelles sont les conséquences bioéthiques. Mais l'année d'avant, c'était les problèmes bioéthiques que pose l'enfance. Donc il y a à l'infini des sujets qui peuvent être traités et approchés par le grand public. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque. Les conférenciers de bioéthique qui sont fâchés quand on les invite pas au Forum européen de bioéthique. Donc avant, j'étais obligé d'expliquer ce que c'est. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'expliquer. C'est le seul endroit d'Europe, et c'est pour ça qu'on a été approché par la Commission européenne. Ils voulaient que j'aille faire la même chose à La Haye, Amsterdam, etc. Je peux pas. Mais ce que je sais, c'est qu'à Strasbourg, la culture bioéthique des gens qui s'intéressent, elle est là. Bref, la bioéthique, c'est pas une tour d'ivoire. On peut s'intéresser à la bioéthique si on est monsieur et madame tout le monde.
Israël Nizan, pour terminer cette série d'entretiens, je vous propose de revenir à l'essence même de votre métier, c'est-à-dire la naissance, la mise au monde des bébés, la reproduction humaine. Cette décision un peu folle de deux êtres qui s'aiment de prolonger leur amour par un désir d'enfant. Mais, dites-vous, avec une sorte d'illusion, qui sera que l'enfant qui vient ne sera pas forcément un être qui leur ressemble. Expliquez-nous ce paradoxe intéressant, c'est-à-dire quand on veut un enfant, c'est pas le prolongement de soi-même.
Je pense qu'on ne se reproduit jamais. Ce terme de reproduction est faux et il trompe. Jamais un enfant ne va rester sur l'étagère dans la position où on l'y a posé. Il va changer de position, parfois au grand désarroi de ses parents, et revenir avec une crête violette iroquoise. Et ses parents n'auront pas d'autre choix que de valider sa vie, parce que c'est désormais sa vie. Ce serait bien qu'on dise aux parents « on ne se reproduit pas ». Et quand je vois des parents infertiles qui viennent au service de reproduction humaine, ben ils sont abusés par ce mot-là. Disons-le, aucun enfant n'est exactement comme ses parents auraient voulu qu'il soit. Et c'est bien ainsi, c'est très sain qu'un enfant sache, plus ou moins tôt, prendre son envol, prendre le volant en main et s'éloigner de ses parents. Pour moi, le mot « éduquer », « éduquer », ça peut se traduire de deux manières. Ça peut se traduire « éducare », « je donne à manger », mais ça peut se traduire par « éduquere », je conduis dehors. Les parents devraient être fiers d'avoir pu mettre des canards sur la mare, qu'ils soient des gens heureux et capables de vivre et de flotter tout seuls.
C'est un beau début de conclusion, professeur Israël Nizan. J'ai une question toute simple à vous poser au cours de vos 45 ou 50 années de carrière. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'enfants que vous avez mis au monde ?
J'ai un peu essayé de calculer, mais c'est à peu près 6 000.
6 000. Il y a des moments particuliers, des souvenirs précis, d'ailleurs pas forcément toujours positifs, dont vous vous souvenez, de naissances particulières ou de moments particuliers ?
Oui, les naissances qui m'ont fait le plus de peine, c'est les accouchements sous X. Voilà un enfant qui vient au monde, qui n'a pas demandé à venir au monde, et on sait que sa vie est, dès le départ, très gravement obérée. Alors, il m'est souvent arrivé d'aller en pouponnière, d'en prendre un dans les bras, de passer la visite avec lui, habillé en Père Noël. Mais je me dis, voilà, quelle va être sa vie ? Et toute cette inégalité de chance sur laquelle on ne pourra jamais revenir, cette inégalité de départ, c'est quelque chose qui, de temps en temps, à 3 h du matin, au fin fond d'une salle d'accouchement, m'a presque tiré les larmes.
Merci infiniment, Israël Nizan, d'avoir participé à cette série d'entretiens pour À Voix Nue. Au revoir.
Au revoir. Merci.
C'était À Voix Nue avec Israël Nizan. Réalisation Yael Mandelbaum, prise de son Virginie Lorda, chargée de programme Daphné Abgral. Une série proposée par Éric Lemasson, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
Un an après les violences du printemps 2024, dans quel état se trouve la Nouvelle-Calédonie ?
Nicolas Herbeau.
Alors que le ministre des Outre-mer a engagé cette semaine de nouvelles discussions sur l'avenir institutionnel du territoire français du Pacifique Sud, la situation économique et sociale reste très préoccupante. Politiquement, tout est également instable. La question de l'héritage colonial paraît incontournable, explique l'anthropologue Benoît Trépied dans son dernier essai. Il est notre invité.
Les matins du samedi, ce samedi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Une nouvelle série des visages de l'actu consacrée à Jordan Bardella.
Guillaume Herner.
Un nom qui incarne aujourd'hui l'avenir du Rassemblement National et peut-être plus encore.
Qui d'autre que nous pour redonner aux Français le droit de vivre dignement de leur travail et à nos entreprises le pouvoir de produire sans entrave.
On l'appelle le plan B, mais ce plan B pourrait très vite devenir un plan A.
Les visages de l'actu, Jordan Bardella. Un portrait en 4 épisodes à écouter sur franceculture.fr.